Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
Notre invité du jour a déjà profité du spectacle de la fête nationale pour faire de la trampoline devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur les plaines d'Abraham. Aujourd'hui, c'est sans trampoline, mais avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit Louis-José Hout. Bonjour, monsieur.
Quelle belle introduction. C'est la première fois qu'on m'introduit avec ce passage à la fête nationale, comme tu le dis, où oui, il fut une question de trampoline, Sylvain, à ce moment-là.
Mais c'est une image qui me poursuit, moi. Quelqu'un qui anime le gros show de l'année et qui en profite pour faire de la trampoline.
Alors, laisse-moi contextualiser un brin. Il y a très longtemps de ça.
En 2004. Hein?
2004, j'allais dire une quinzaine d'années, vois-tu, une quatorzaine. Là.
Ouais.
J'ai hâte que ça fasse 15 ans de ça, pour que je puisse dire. En 2019, ça va faire 15 ans. Après 15 ans, t'es plus responsable, vraiment.
Ça appartient au domaine public.
Oui, c'est ça. Non, j'ai co-animé le spectacle de la fête nationale à Québec, sur les plaines d'Abraham, avec Patrick Gros.
Oui.
Et on était très jeunes, surtout moi, Patrick, une couple d'années. Il était déjà mature. Lui, on peut l'accuser d'immaturité. Mais moi, je ne l'étais pas encore. Donc, c'est juste qu'on avait des accessoires là, sur scène. On avait une grue sur laquelle on avait joué de la musique. Après, on avait une piscine sur scène pour refroidir les gens qui gelaient déjà parce qu'on était à Québec sur le bord de l'eau au mois de juin.
Mm-hmm.
Puis après ça, on avait un trampoline sur lequel c'est masculin, finalement, cette histoire-là.
Les deux sont acceptés.
Parfait.
J'ai vérifié tout juste avant l'enregistrement.
On retourne au lac. Donc, j'étais sur la trampoline avec Patrick, costumé de façon ridicule, pendant que les Denis Drolet chantaient « Fantastique ». C'est fantastique, ouais.
Et peut-être quelque chose comme un grand peuple, finalement. Hein?
Peut-être quelque chose comme le lendemain, les critiques, c'était « Pourquoi tout ça? » On l'a pas refait. Moi, j'ai animé 10 ans après, en solo, à Montréal, 3 ans de suite, au milieu des années 10.
Pas de trampoline.
Non. Mais je suis très heureux. C'est un très bon souvenir. J'en garde un bon souvenir, mais je pense pas que c'était... quelque chose à refaire.
Ben, c'est la technique de l'essai-erreur, sauf que quand on a juste une fois pour l'essayer, ben...
Non, moi, on m'a mis en punition une décennie, puis en 2014, 10 ans après, on m'a offert d'animer à Montréal, qui fut la dernière fête nationale au Parc Maisonneuve. Et puis après ça, j'ai animé la première à la place des festivals.
Okay.
Fait que je suis bien heureux d'avoir goûté aux deux contextes.
Essai-erreur, quand on parle du spectacle, ton spectacle actuel, Préfère novembre, tu t'es payé un gros luxe. Premièrement, ton année 2018 commence en 2017 parce que Préfère novembre, tu l'as lancé en 2017, mais c'est là-dessus que tu as travaillé toute l'année.
Mm-hmm.
Et tu l'as commencé avec une résidence à l'Olympia de Montréal. Ça, c'est un gros luxe.
Oui.
De pouvoir être en résidence pour placer le spectacle.
Oui, rendu là.
Le posséder.
Rendu à Montréal, il était, au niveau des textes, là, il était à peu près placé. Là, il n'y a plus grand-chose qui bougeait. J'ai fait donc l'automne 2017, 26 dates à l'Olympia, 36 parce qu'on avait fait quelques-unes à l'hiver suivant, début 2018. Et puis, rendu là quand tu arrives à Montréal puis tu t'annonces comme ça, tambour et trompette, il faut que tu sois prêt. Donc, le show était prêt, mais il s'est solidifié à mesure que la résidence avançait. Puis, je le refais ça. Je le refais là. Je le refais de janvier à avril 2019 tellement j'ai aimé ça. Comme tu dis, c'est un grand luxe parce que ça faisait plusieurs années qu'on entendait parler des salles en périphérie, mettons, de Montréal où les gens affluent davantage qu'en ville. Notamment pour l'humour. Je sais pas, il y en a quoi de la musique, je sais moins. Mais pour l'humour, il y a des premières aussi qui ont eu lieu à Laval. Puis moi-même, je passe là souvent, tu sais, à Brossard puis à Laval et autres. Mais il y a quelque chose à Montréal, il y a quelque chose, il y a une énergie. J'ai toujours aimé jouer en ville. J'ai toujours aimé faire des shows sur l'île, sur la rue Sainte-Catherine ou à Place des Arts. Je sais pas pourquoi, c'est inexplicable. C'est quelque chose, c'est ça. C'est comme tu sens qu'un party va lever un soir, là, quand tu sens que tout le monde est un peu tannant. Ces soirées-là à Montréal, à l'Olympia, il y a quelque chose d'extrêmement parfait dans l'Olympia, là, mais il y a quelque chose d'extrêmement vivant. Et puis moi, j'étais à la contre-courant, puis j'ai fait « OK, je vais faire l'automne complet les week-ends à l'Olympia ». Il y avait un grand risque là-dedans, mais mon gérant et moi, on a décidé de foncer là-dedans, puis ça s'est avéré un succès, parce que le bouche-à-oreille était important. Là, quand on a commencé la résidence, il restait beaucoup de billets à vendre.
Ouais.
Mais à force de jouer... Le bouche-à-oreille est parti, puis finalement, on a rempli les 26 dates.
Quand on est en résidence dans une salle, effectivement, pour un humoriste, j'imagine que c'est le rêve, parce qu'il n'y a rien qui bouge.
Mm-hmm.
Puis tu rentres au travail, puis bon, la seule chose qui change, c'est le public dans la salle.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des publics qui sont différents?
Oui. Oui. Et puis l'idée, justement, de jouer à Montréal toute une saison, ça repose un peu aussi là-dessus, c'est-à-dire que si tu veux venir me voir à l'Olympia, il y a quand même une certaine démarche. C'est-à-dire que tu sais, faut que tu te déplaces, si t'es pas en ville.
Oui.
Ça veut pas dire que c'est tous des gens de Montréal qui sont dans la salle.
Non, c'est pas tous des citadins.
Non. Je connais pas de statistiques là-dessus, là, mais il y a un effort à faire pour aller à l'Olympia. C'est pas toujours pratique. Il faut que tu stationnes. Il y a du trafic. Blablabla. Et ça fait que le public, on dirait que ça attire des gens qui ont vraiment envie de te voir. Il y a une petite frénésie. Encore, c'est comme une sortie en ville. Ils vont manger avant ou après. Puis des fois, c'est quand on est dans les villes, quand on se retrouve dans n'importe quel système de diffusion traditionnel.
Oui.
On dirait que des fois, il y a quelque chose d'un peu moins frénétique là-dedans, quelque chose d'un peu moins excité. T'sais, les gens sont, je sais pas, un peu moins excités. Tandis que quand tu sors en ville voir un spectacle, je trouve qu'il y a quelque chose qui devient un peu plus pétillant.
Dans le documentaire qui a été diffusé récemment à TVA sur une année, on passe une année complète, Sébastien Diaz passe une année complète avec toi, et on te voit au soir de la première sortir de scène. Puis moi, j'étais là à la première, et c'était franchement ben bon.
Merci.
Sauf que tu n'étais pas content.
Non.
Puis là, c'est là que je me posais la question, à quel moment un humoriste commence à ne pas être content alors que tous les gens se sont amusés dans la salle?
Ah, OK, ça, c'est la perception, là. Moi aussi, j'en ai vu des spectacles de collègues où j'ai ri tout le long, puis le collègue n'était pas content du tout. Là, tu sais, tu peux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que, je le dis dans le documentaire, là, j'ai fait cette salle-là, on vient d'en parler, j'ai fait cette salle-là une trentaine de fois là, dans le même automne. Donc, à un moment donné, j'avais beaucoup de comparatifs. Puis le soir de la première, ça riait juste moins que les 17 soirs avant ça, tout simplement. Et c'est comprenable.
Moins ou ça riait pas pareil?
Les deux. Ça riait pas pareil, puis ça riait moins. Mais c'est normal, il y a beaucoup de collègues dans la salle, il y a beaucoup de gens de l'industrie qui observent, puis dont certains, c'est le travail d'observer parce qu'ils vont en parler le lendemain.
Ouais, parce qu'il y a les médias qui sont là.
C'est ça, puis je comprends bien que les médias, on vient pas là pour se taper ses cuisses, là, mais puis c'est leur travail, puis on fait ces soirées-là pour les accueillir eux, parce qu'on a besoin de leur plateforme, tu sais. Mais non, ça riait juste moins. J'ai fait plus court que d'habitude, tellement il y avait moins de rire, le show était moins long. Puis c'est un exercice qui vaut la peine quand même, par exemple.
Mais pourtant, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans ce fabuleux documentaire-là que j'ai vraiment beaucoup aimé. On te voit fouiner à partir des coulisses, on te voit regarder dans la salle, puis tu te dis, je vais tout de suite spotter l'air bête qui pourrait me déconcentrer pendant la soirée.
Ouais.
Il est arrivé quelque chose de très troublant. Je t'ai vu au mois de novembre à la salle Maisonneuve, et il y avait quelqu'un qui avait un T-shirt sur lequel il était marqué « fuck ».
Ouais.
À la fin du spectacle, tu l'as pointé en disant « Excuse, ton chandail a attiré mon attention toute la soirée. Est-ce que tu es vraiment nerveux à ce point-là de voir qu'il pourrait avoir des éléments qui pourraient te déranger tout le long? »
Je suis pas très nerveux avant les spectacles.
Mais tu es capable de focusser là-dessus?
Oui, ouais, absolument. Ça, c'est à force de le faire, là, à force d'expérience. Puis pour ce qui est de regarder les gens avant le show, ça me met dans un état de les voir arriver, les voir s'installer, de sentir qu'ils n'ont pas juste ça à faire, qu'ils sont un peu pressés, un peu la broue dans le toupette. Ils ont eu des contraintes. Là. Ça, des fois, ça apparaît dans leur visage quand ils arrivent. Puis on dirait que ça me met dans un état où j'ai comme une responsabilité là, de donner un bon spectacle.
D'aller les chercher.
Ouais. Puis après ça, des fois, j'aime ça regarder en avant s'il y a un monsieur qui n'a pas le goût. J'aime autant mieux le savoir tout de suite. On dirait que j'aime ça repérer les arbêtes avant d'y aller. Comme ça, quand je commence le show, ça me dérange pas. Puis dans le cas du gars qui avait un t-shirt foncé, puis c'était écrit un gros fuck en blanc dessus. Puis à la fin du spectacle, quand je l'ai interpellé, on a appris quand il s'est levé que c'était écrit fuck cancer. Là, j'étais bien d'accord avec ça. Sauf que tout le long de la veillée, je voyais juste un gros fuck blanc. Et ça peut arriver. Soir après soir, ou des variations de ça, puis ça me déconcentre pas.
On compte souvent sur l'appui de personnes qui rient plus fort que d'autres dans la salle.
Mm-hmm.
C'est toujours un bel effet d'entraînement. Louise-Josée Houd, j'ai une surprise pour toi, c'est parce que Louise Richer est avec nous. Louise Richer, bonjour.
Mon Dieu.
Là, je me sens un petit peu obligée de rire.
Non, pas obligée, sauf qu'en même temps, on connaît Louise Richer, directrice de l'École de l'humour. Que tu vas fréquenter. Louise Richer, parle-moi donc de Louise-Josée Houd.
Oui, on s'est fréquenté.
Que j'ai fréquenté, on parle de l'école ou de Louise?
Oui, de tout.
Parce qu'avec Louise, ça s'est pas su, là.
C'est nouveau,
c'est
là.
Oui, parlons pas des choses. Reste, n'ouvrons pas le garde-robe et ne montrons pas nos squelettes.
Louise-Josée Houd, quand tu l'as rencontré comme étudiant, est-ce que tu pouvais imaginer une seconde que c'était pour devenir ce que c'est devenu?
Faut que je réponde franchement.
Oui.
Non, mais je l'ai connu petit. Louis-José. Moi, j'ai beaucoup de difficultés, puis j'ai appris à retenir pas mes perceptions, mais mes impressions, puis éventuellement dessiner le futur de ceux qui fréquentent le NH. Puis c'est sûr que Louis-José explorait. Il y a des gens qui rentrent à l'école, et le pourtour là, de leur personnalité humoristique est très, très bien dessiné déjà, puis il y en a d'autres que c'est l'amorce d'une démarche et d'une quête pour savoir qui suis-je, effectivement, de quoi je parle, et sous quelle forme, mais bon. Alors, c'est sûr que Louis-José s'est promené, a exploré beaucoup à travers des personnages, mais c'était un explorateur très actif.
Ah oui, très
impliqué, sensible, discipliné, curieux, les mêmes antennes qu'il a sur la tête aujourd'hui, ils avaient à l'époque.
Donc, les ingrédients étaient déjà tous là, la discipline, la rigueur,
absolument.
Tout était là.
Absolument. Et puis, c'est ce qu'on apprend aussi après 30 ans à l'école de l'humour. Finalement, la meilleure... L'indicateur pour un succès futur, c'est du travail acharné, puis une curiosité, une boulimique, et ça le caractérisait déjà. Mais effectivement, il était au début de cette démarche-là de se constituer, de s'identifier comme son style et sa façon, son propos.
Merci, clairement. Louise. Vraiment, c'est très...
Mais c'est vrai.
J'allais te demander, Louis-José, es-tu d'accord avec tout ça?
Oui, puis je trouve que Louise exprime très bien, très gentiment, parce que en gros, j'étais pas vraiment convaincant à l'école, mais j'étais très jeune. Je suis rentré, j'avais 19 ans. 19, j'ai eu 20 ans pendant que j'étais à l'école. C'était juste un an à l'époque. Puis oui, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. J'étais beaucoup trop jeune pour... j'avais aucune originalité dans le sens... j'étais juste une réplique d'affaires que j'avais vues. Puis mais l'école m'enseignait la rigueur dont on parle. Ouais. En fait, là, j'ai eu des profs qui étaient exigeants. Puis François Havard, notamment, avec qui je travaille encore à ce jour, qui m'a aidé dans tout ce que j'ai fait. Et puis François me parlait fort, puis il m'a mis à ma place une couple de fois, puis ça me sert encore aujourd'hui, la manière dont il m'a parlé. Mais après ça...
Tu l'as gardé autour de toi pour qu'il te remette à ta place régulièrement.
Il est à côté de moi présentement, il me laisse pas sortir seul en public. Il est dans le coin du studio.
Ah non, il est mauvais, hein, oui.
Et tu sais, puis d'autres influences aussi que j'ai rencontrées à l'école, mais... il est vrai qu'il y a rien qui remplace après ça l'expérimentation. Moi, ça m'a pris 4-5 ans de club, là, de bar, où j'ai fait énormément de shows après ça dans des bars, puis c'est ça qui m'a formé un peu, qui a formé mon style, mais l'école...
Tu t'es mis en danger, c'est ça aussi, c'est évoluer, c'est se déstabiliser, puis ça, t'as jamais eu peur de ça.
Mais les professeurs nous encourageaient. Les professeurs nous encourageaient à faire l'exercice, de se diversifier, disons, puis d'essayer des affaires. Ouais. Et
c'est ça l'esprit de l'école.
Oui, des fois, c'était malheureux.
C'est fait pour ça.
Mais c'était très enrichissant au point de vue créatif.
On parlait d'essais-erreurs tantôt, c'est ça.
Oui. Donc, mais on parle aussi, je pense, c'est important, un lieu d'exploration, que c'est un lieu où tu as le droit à l'erreur. Même à l'ENH, on parle du devoir à l'erreur.
Ah oui.
Tu ne te trompes plus. C'est parce que tu n'essayes rien, puis tu ne te déstabilises pas, puis tu n'évolues pas. Tu sais, ça qu'en ce sens-là, j'ose croire que c'est un milieu sécurisé, bienveillant quand même autour de toi. Là.
Ben voilà. Hey, merci beaucoup, Louise Richer, d'être passée faire un petit tour comme ça.
Je t'embrasse, Louis-José. Merci encore, Louis-José, qui a participé au gala 30e de l'ENH. C'est un loyal et je l'apprécie. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir, Louise. Merci beaucoup d'avoir parlé aujourd'hui.
Salut, Louise.
On s'en va en musique?
Non, ça va pas en musique, on revient entre nous.
Merci Louise.
Salut Loulou.
Bye-bye.
Bye-bye. On parle de fidélité, on parle de loyauté. C'est vrai qu'autour de toi, il y a des gens qui sont là depuis longtemps.
Mm-hmm.
Quand on passe à Louis-José Houde, le nom de François Havard arrive souvent, mais aussi Joseph Saint-Gelais, qui a fait partie d'à peu près toutes tes aventures, je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Des spectacles à la mise en scène. Généralement, ça fait une vingtaine d'années que tu fais ça, généralement, les humoristes font des changements. Autour de toi, on dirait que ça bouge pas.
J'ai pas senti le besoin de bouger beaucoup. Joseph, ça a commencé comme répétiteur, c'est-à-dire que c'est mes premiers galas juste pour rire. On m'avait référé quelqu'un pour mettre de l'ordre un peu dans ma prestation. Là, puis Joseph me faisait répéter mes textes, puis à un moment donné, c'est devenu un collègue, puis il a signé les mises en scène de la plupart de mes... spectacle. Puis encore maintenant, pour le gala de la disque, quand mon numéro d'ouverture est à peu près prêt, c'est à lui que je le montre en premier avec François Havard. Puis c'est un répétiteur. C'est pas très à la mode en humour ces temps-ci de répéter des textes. Tu sais, l'air est plus à aller sur scène au bordel puis casser les affaires. Puis tout ça. Moi, j'haïs pas ça quand même. répéter les choses en salle de répétition avec Joseph. Puis, mais tu sais, il n'y a pas de règlement. Hein. Chacun fait à sa façon. Puis, pour ce qui est de changer de collègue, non. On dirait jusqu'à... Tu sais, en stand-up, là, OK? Ouais. Il y a des humoristes qui font dans le plus élaboré là, au niveau de la mise en scène, disons, puis de la présentation. Puis ça, je pense que pour aller plus loin dans ça, un gars comme André Sauvé, mettons, ouais. Gagne à peut-être, je sais pas s'il l'a fait, là, mais gagne à peut-être à varier un peu ses collaborateurs pour aller plus loin là-dedans. Mais quand tu parles avec un micro devant un rideau, si t'as confiance aux gens, il faut juste pas que les gens, à un moment donné, oublie de te corriger. Ou faut pas que tu deviennes trop gros puis qu'on soit ouais. gêné de te mettre à ta place. Puis dans le cas de mes deux collègues, je sens pas ça du tout. T'sais, si je suis pas drôle, ils vont me le dire.
Tu es seul à aller sur scène, sauf qu'en même temps, quand on te regarde travailler, quand on s'informe un petit peu, t'es un vrai gars d'équipe.
Oui.
Puis Louis-José Houde en tournée, l'équipe est très importante.
Ouais.
Il y a ton espèce de régisseur de tournée.
Oui, il s'appelle Pierre-Luc, c'est mon
Pierre-Luc,
directeur de tournée.
C'est,
ouais.
c'est ton grand chum, puis en même ouais. temps, c'est le grand organisateur de tout.
Ouais.
J'ai vu un extrait l'autre fois où vous avez des matchs de hockey dans l'après-midi.
ouais.
Là, tu te dis, OK, les gars ouais. jouent au hockey dans l'après-midi. Bon, encore là, il y a la présence d'une équipe pas mal solide à la disque. Ouais. L'esprit d'équipe pour toi, l'esprit de groupe, l'esprit sportif, c'est quelque chose qui est toujours présent.
J'ai une contradiction ambulante, c'est-à-dire que je suis un passionné de solitude et je souffre jamais de solitude. Moi, je m'ennuie jamais, je peux être tout seul des jours de temps, j'ai aucun problème avec ça. Puis en même temps, j'adore
l'esprit grégaire.
Ouais, oui, en même temps, oui.
L'esprit de groupe.
Oui, je l'ai beaucoup, puis je fais un balan entre les deux. Après ça, en tournée, c'est que j'ai vu, moi, j'ai entendu des histoires, mettons, même je connais des amis humoristes qui se sont tannés un petit peu de la vie de tournée ou qui sont un petit peu réticents d'y retourner parce que ça devient long. Puis moi, à un moment donné, au début de ma carrière, j'ai tenté de m'organiser comme il faut parce que j'aime beaucoup faire des spectacles, mais je peux ouais. comprendre que la vie de tournée d'hôtel, de déplacement peut devenir un petit peu grisante. Puis après ça, une fois que j'ai trouvé les bonnes personnes,
ouais.
J'espère je peux juste espérer qu'ils restent avec moi tout le temps, mais j'essaie en tout cas de les traiter comme il faut. Puis je pense que ça aide beaucoup à la qualité d'un spectacle d'humour,
ouais. okay,
que ce soit le fun en coulisses avant. T'sais?
Parce que c'est un
drôle. Si t'es de mauvaise humeur.
C'est un drôle de problème parce que c'est un problème qui arrive avec le succès. Au bout du 200e, du 250e spectacle, c'est là qu'on peut avoir l'impression de tourner en rond.
Ouais.
Or, ça vient avec le succès. Il faut en vendre des billets pour se ouais. rendre à 200, 250, 300 représentations.
Ouais.
Ne pas se répéter puis rallumer la flamme régulièrement, ça doit être quelque chose. Tes tournées, toi, durent plus de 200 représentations, 300 mmh. même. Rallumer cette chandelle-là à tous les soirs, on a beau dire qu'on veut éviter de tomber ouais. dans des patterns. Ça doit pas être évident.
Non, c'est pas évident. C'est le grand combat.
Est-ce que l'équipe est là pour ça, justement, pour...
L'équipe peut, je reviens à ce que je disais, l'équipe peut, dans sa bonne humeur, okay, dans
ouais.
la complicité qu'on a avec les individus, on peut pallier à cette routine-là en ayant juste beaucoup de déconnage en coulisses 5 secondes avant d'y aller. Moi, ça se peut pas ce qui se dit dans mes oreilles 5 secondes avant que j'embarque à la Place des Arts. Là. C'est indécent. Ce que je dis moi-même... Ma concentration est faite, mon rituel est fait, je suis habillé, je suis changé, j'ai siesté, j'ai mangé, je suis focusé, je suis prêt, mais je peux déconner avec mon directeur de tournée littéralement 5 secondes avant d'y aller, pendant que mon walk-in, ma musique d'intro joue, les obscénités qui se racontent en arrière, puis on rit, puis à un moment donné, ouf, je me tourne, puis j'y vais. T'sais. J'ai pas de cue précis pour rentrer dans ma musique, là, j'y vais un peu quand ça me tente. Puis des fois, c'est très tôt, des fois, c'est très tard, parce qu'on n'a pas fini de faire ce qu'on faisait ou de dire ce qu'on disait. Puis,
ouais.
Donc, l'équipe peut aider là-dedans. Après ça, là, toutes sortes de trucs. Là. Moi, c'est mon quatrième tour de piste. Là.
Ouais.
C'est ma quatrième longue tournée. J'ai appris à faire vieillir ça, ces spectacles-là. T'sais. J'ai appris à discarter ce que je sens plus, okay? Ce que j'ai plus envie de raconter, je l'enlève. En s'assurant qu'il y a un minutage là, est respecté,
bon, oui.
que pas que le show dure 40 minutes. Là, mais
les gens en aient pour leur argent.
Ouais, mais ça, c'est, tu t'en sors toujours.
Mais pas d'en avoir trop.
Pas d'en avoir trop, mais c'est toujours correct parce que quand t'enlèves, un show va toujours allonger, OK?
Mm-hmm.
Parce que ce que t'aimes faire, ça va naturellement s'étirer. Des fois, tu
ouais.
te mets à jouer mieux puis t'étires certains passages que tu fais avec cœur. Puis ceux que tu fais sans cœur, ben t'es enlèves. Puis à un moment donné, tu finis toujours par faire 1h20 là, de show. Mais oui, c'est sûr que moi, je pense qu'on ne devient pas tanné d'un show totalement du jour au lendemain. Il y a des choses à mener qui nous semblaient pertinentes il y a un an puis qui ne semblent plus là, tu les enlèves. S'il y en a trop, ben arrête. T'sais, c'est comme ça. Il y en a qui arrêtent, qui font pas longtemps. Je suis tout à fait. Je comprends ça.
Mais pour enlever.
Si tu enlèves les morceaux que tu n'aimes pas, tu vas continuer.
T'sais. Mais pour enlever des morceaux que tu n'aimes pas, pour rajouter des morceaux que tu aimes, est-ce que ça t'oblige, en période de création, de composer genre 150% d'un spectacle puis de te garder toujours des plans B?
Il y a beaucoup de backup. Il y a une voûte, il y a beaucoup de relève, il y a beaucoup de matériel inédit qui peut servir. Après ça, en faisant les shows aussi, il arrive beaucoup d'affaires improvisées de soir en soir. Et moi, j'enregistre tous les spectacles sur un audio. Ouais.
Et tu les écoutes?
Non, je les écoute au besoin.
Okay,
c'est-à-dire que si j'improvise quelque chose qui a fonctionné, je vais le réécouter après. Puis là, je vais l'introduire, le greffer au spectacle.
OK, mais c'est pas systématique, là.
Non, ça peut arriver une fois dans trois mois, ça peut arriver...
As-tu de la misère à t'entendre, à t'écouter?
Oui, beaucoup.
Ouais.
Oui. Ouais. J'aime pas nécessairement ma voix.
Voilà. C'est des choses qui arrivent. Mais une expression qu'on entend souvent à ton sujet, Louis-José, c'est « lui, c'est une machine ».
Ouais.
T'arrives sur scène, puis ça marche. Ça marche tout le temps.
Oh.
Même dans le doute.
Ça finit par marcher, mais comme tout le monde.
Dans la salle.
D'habitude, oui. Ça finit par fonctionner, mais comme tout le monde, mes essais, mes premiers balbutiements d'un spectacle, on dit que c'est pas toujours glorieux. Tant mieux, là, c'est normal. Mais machine.
T'as pas l'impression d'être une machine?
Non, pas du tout. C'est-à-dire, j'ai un grand intérêt pour la science de la blague.
la science de la blague.
J'aime beaucoup. Je cherche à comprendre cette science-là.
La mécanique 2.
Ouais. Puis je la comprends de plus en plus, mais ce ne sera jamais une maîtrise entière. Et ça me passionne beaucoup, ça. Qu'est-ce qui déclenche le rire, OK? Donc, c'est vraiment, je fais ça, c'est mon métier, c'est ma passion, machine. Bon, j'ai tendance à... Qu'est-ce que tu veux? Je suis motivé, là. J'aime ça, tout simplement. Mais c'est pas... Des fois, je passe un peu pour ça, parce que contrairement à beaucoup d'autres, quand je suis pas là, tu le sais pas. Je suis pas sur les réseaux sociaux de façon personnelle, disons. Donc, des fois, je peux être trois mois sur une plage, mais personne ne sait. Je passe des fois pour une machine, parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de moi, c'est pour le travail. T'sais. Tu sais jamais que je suis au Sri Lanka, là. C'est parce que j'ai l'air de faire juste ça, mais c'est parce que quand je fais autre chose, je le dis pas.
Alors que tu pousses tes recherches sur la compréhension du mécanisme de la blague.
Mais je sais faire autre chose aussi dans la vie, mais c'est pas une obsession, c'est vraiment un grand intérêt, tout simplement.
Ben, c'est sur ce grand mystère qu'on va aller faire un tour du côté de la pause, puis au retour, peut-être qu'on va avoir compris tout ça.
D'accord.
Je suis en compagnie de Louis-José Houde aujourd'hui à Entre nous, de retour dans quelques instants.